la paix dans les foyers et dans les communautés chrétiennes. Nous, à notre tour, laissons toutes nos occupations pour venir trouver de nouveaux chemins de faire et de vivre la paix. C'est quand on parle de la réconciliation, c'est vraiment la recherche de la paix. Pouvoir faire la paix avec l'autre, mais pouvoir aussi vivre la paix avec l'autre. Alors, nous l'en disons, dalal, et nous l'en exi. Raté ou l'en dara, et nous l'en commencer. Ce partage nous invite donc à vouloir et à rechercher la paix dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos maisons, mais aussi dans notre communauté chrétienne. Car une paix véritable n'est possible que par le pardon et la réconciliation. Cette causerie a été voulue en ce temps fort du carême, parce que c'est un moment fertile, le temps du carême, un moment favorable dans notre vie de foi, au moment par lequel l'Église nous invite spécialement à la prière, à la pénitence ou la réconciliation, et à la charité ou le pardon. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ces termes. Parfois, la pénitence peut être assimilée à la réconciliation, comme aussi le pardon peut être un acte de charité. À travers donc le thème qui a été choisi pour notre causerie, les grands pas nécessaires pour une vraie réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec soi-même, nous voulons retrouver le chemin qui reconstruit l'amour chrétien et la paix par le canal de la réconciliation, retrouver l'unité des cœurs par le biais du pardon. Alors, certainement que dans l'enseignement, tantôt je vais parler de pardon, tantôt je vais parler de réconciliation. Ça peut signifier la même chose, mais il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon est une décision personnelle qui dépend de celui qui est offensé. Parce que le pardon, il est offert, il est donné. Donc c'est une décision personnelle qui dépend de celui qui est offensé. On peut retrouver cela dans Romains, chapitre 12, versets 17 à 21. Alors que la réconciliation est un parcours qui peut être très long, accompagné de gestes, de repentance, et qui doit aboutir à la libération du mal et à la restauration des cœurs. Je ne sais pas si vous faites la différence. Le pardon, je reviens là-dessus, je disais que le pardon est une décision personnelle. Parce que quand j'offense quelqu'un, je lui dis pardon, ou je lui demande pardon, mais il est libre de me pardonner ou de ne pas me pardonner. Il peut me pardonner en disant « je te pardonne ». Mais en réalité, est-ce qu'il a pardonné? Maintenant, ça, c'est la réconciliation qui va le prouver. Parce que si, quelque temps après, il revient sur la faute, il me rappelle encore la faute, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Il a seulement pardonné l'acte au moment où je lui ai demandé pardon. Et il y a des conditions qui remplissent l'acte de réconciliation. D'abord, il y a le fait de reconnaître la gravité de sa faute. Si tu es un homme, tu dois savoir que tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Donc, reconnaître la gravité de sa faute, ne plus reprendre ce mauvais comportement. Donc, celles sont les conditions de la réconciliation. Accepter son tort sans vouloir ensuite se défendre. Parce que parfois, tu peux dire, ah bon, je reconnais que j'ai tort. Mais après, tu vas chercher à te défendre, comme quoi, même si j'ai tort, tu ne devrais pas faire ainsi. Mais il n'y a plus de réconciliation, finalement. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Si, si. Voilà. Donc, accepter son tort, sans vouloir ensuite se défendre. Ne pas minimiser le degré du mal. Parce que, Hamon, voilà, l'inga définit qui fan la kotolo. Donc, tu ne peux pas minimiser aussi la gravité de la faute, le degré du mal. Accorder le pardon avec humilité et non avec arrogance. Ce n'est pas parce que c'est toi, voilà, qui as raison, qui dois pardonner, que tu vas humilier l'autre au point d'être arrogant avec lui. Ça aussi, c'est les conditions de la réconciliation. Et enfin, le dommage à payer doit être objectif et non subjectif. Voilà, nous qui, maintenant là, on se soutire, voilà, on a dit qu'il y a un billet pour la rotico. Donc, ça devient, voilà, une injustice en voulant se faire justice. Donc, le dommage à payer doit être objectif pour une équité de la justice. Donc, voilà quelques conditions qui font que la réconciliation peut aboutir et qu'on peut dire, c'est ça, une vraie réconciliation. Alors, avec tristesse, notre humanité présente le visage d'un monde fatigué, d'un monde épuisé par des querelles politiques. Alors, regardons ce qui se passe au niveau mondial aujourd'hui. Il y a des querelles politiques par des injustices humaines, par des jalousies, des batailles de famille, des discriminations, des conflits, des séparations, de l'indifférence, des tentations de vengeance, et que sais-je encore. Et tout cela, c'est un poids très lourd dans nos familles aujourd'hui. Quand nous regardons tout ce qui se passe, tout ce que je viens de citer, parfois, il y a des batailles entre même membres d'une famille, voilà, pour un héritage ou simplement pour un positionnement, voilà, j'allais dire social. Il y a des séparations, il y a des conflits entre populations, entre villages. Parfois, même dans l'église, il y a des conflits entre CEB, entre communautés chrétiennes. Tout cela arrive parce que simplement, nous ne sommes que des humains. Alors, un poids très lourd dans nos familles, dans nos groupes de prière, dans nos communautés paroissiales et ecclésiales. Ensemble, nous partagerons sur les trois points suivants. Premièrement, nous allons voir la réconciliation avec Dieu, une spiritualité. Deuxièmement, la réconciliation avec les autres, une grâce de Dieu. Et enfin, troisièmement, la réconciliation avec soi-même, une mission pour un témoignage prophétique. Petit un, la réconciliation avec Dieu, une spiritualité. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une manière chrétienne de vivre qu'on pourrait appeler la spiritualité du chrétien. On parle de la spiritualité du prêtre. Quand vous prenez les religieux, voilà, ils ont spécifiquement leur spiritualité. Même le prêtre diocésain a sa spiritualité. Ah, le chrétien aussi doit avoir sa spiritualité. Ou bien? Ah, si. Dès l'instant qu'on prie, dès l'instant qu'on croit en Dieu, on doit pouvoir avoir une spiritualité. La spiritualité suppose d'abord que nous soyons enracinés profondément dans le Christ. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Tel est l'appel que Paul adressé à la communauté de Corinthe. Vous le verrez en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Oui, c'est cela, cette spiritualité dont il est question. Donc, être enraciné profondément dans le Christ. C'est un appel à la sainteté qui encourage le croyant ou le fidèle du Christ à se nourrir de la parole de Dieu et des sacrements. Alors, pour en revenir à la spiritualité, donc, lire la parole de Dieu, c'est déjà, voilà, un fait de cette spiritualité. C'est une action, c'est une activité. Vivre les sacrements aussi, c'est une autre activité pour avoir une spiritualité chrétienne. Donc, pendant des siècles, pour les catholiques, faire ses Pâques ou faire la Pâque signifiait se confesser et communier. Vous savez, l'Église a fait son chemin aussi. Ce n'est pas faux, puisque le catéchisme de l'Église catholique aussi le recommande. On recommande à tout baptisé, à tout chrétien, de se confesser et de communier au moins une fois dans l'année. C'est une recommandation. C'est naturellement à l'endroit de ceux qui ne vont jamais à l'église. Mais ceux qui sont tout le temps à l'église, ils communient. Est-ce qu'ils se confessent? Ça, c'est autre chose. Parce que parfois, on reste longtemps aussi sans nous confesser et nous allons communier tout le temps. Alors que les deux sacrements vont ensemble. Donc, monsieur Kiba, ça fait rire, non? Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1389, voilà, revient sur cette communion, cette recommandation. Et déjà au 4e concile du Latran, c'était au 13e siècle, en 1215, pour communier chaque jour, il fallait l'autorisation de son confesseur. Et c'est au 17e siècle. Donc on passe du 13e siècle, 4 siècles après, au 17e siècle, que justement, on a commencé à accepter la communion de manière fréquente. Ça veut dire qu'avant, les chrétiens ne communiaient pas comme nous communions aujourd'hui. Peut-être les gens communiaient une fois le mois. Et l'Église recommandait quand même, pour que les chrétiens manifestent leur attachement à Jésus-Christ, de communier une fois au moins l'année. Mais avant de communier, il fallait se confesser. Alors la dernière fois, avec un prêtre, voilà, on est revenu sur la communion, voilà, qui est recommandée à Pâques. Il me dit, mais et les divorcés remariés, les excommuniés, comme on les appelle, ceux qui sont en concubinage, est-ce qu'ils peuvent communier? J'ai dit, bon, l'Église ne leur permet pas, à cause de la situation, de pouvoir communier. Mais il y a ce qu'on appelle la communion spirituelle. Ils peuvent se confesser. Parce que, même s'ils se confessent, c'est sûr qu'ils repartent dans la même situation. Parce que la situation n'évolue pas. Ils sont toujours dans le concubinage. Ils sont toujours, peut-être, voilà, dans le cas du divorce, voilà, remariage. Mais l'Église leur permet de pouvoir au moins aller se confesser. Mais quand ils vont se confesser, ils ne reçoivent pas l'absolution. Au moins, ils se libèrent. Parce que la confession est un acte de foi. Donc, ils viennent, comme tout croyant, comme tout baptisé aussi, faire un acte de foi en confessant leur faute. Si cela peut apaiser, voilà, leur cœur, leur conscience, eh bien, c'est le but recherché. Donc, pour pouvoir pardonner, il faut avoir une vie de prière intense. Ça, c'est la troisième activité de la spiritualité du chrétien. C'est valable aussi pour le prêtre, le religieux, la religieuse. Pour pouvoir pardonner, il faut avoir une vie de prière intense. parce que c'est une telle disposition qui élève notre esprit pour comprendre que nous devons nous convertir. C'est la prière et l'amitié avec Dieu qui nous donne la force de ne pas nous laisser dominer par le mal que l'autre nous fait subir. Il y a des gens, peut-être à longueur de journée, voilà, ils souffrent de vivre avec l'autre. Il y en a qui, c'est tous les jours, devoir voir le même visage avec les difficultés que vous traversez ensemble. Ce n'est pas facile. Donc il n'y a que la prière qui peut nous sortir de cette situation de faiblesse, parce qu'on se sent dominé par le mal, un mal que nous subissons parce que l'autre, justement, fait sur nous. Alors l'Église lutte pour la paix par le moyen de la prière. Si l'Église lutte pour la paix par le moyen de la prière, c'est parce que seule la prière peut ouvrir le cœur non seulement à une relation profonde avec Dieu, mais aussi à la rencontre avec le prochain sous le signe du respect, sous le signe de la confiance, de la compréhension, de l'estime et de l'amour. L'Église, voilà, nous recommande de toujours prier, de prier sans cesse. Parce que l'Église croit que la prière peut ouvrir le cœur, voilà, de la personne qui s'est refermée envers elle-même, ou la personne qui a fermé son cœur à l'autre, ou même la personne qui a fermé son cœur à Dieu. Il y en a qui ont fermé leur cœur à Dieu. Ils ne veulent plus aller à l'Église. Ils ne veulent plus même entendre parler de Dieu. Alors comment faire advenir encore la réconciliation, la paix et cet attachement à Dieu? Ce n'est que par la grâce de la prière. Oui, la force de la prière, c'est de nous réorienter dans la voie de la justice et du bonheur. Parfois, on veut tellement se faire justice. Quelqu'un te fait du mal aujourd'hui. Tu rumines. Pendant des jours et des jours. Comment je vais faire pour me venger de lui? Comment je vais faire pour lui faire comprendre qu'il m'a fait du mal? Mais il peut arriver que, voilà, la prière change, réoriente, voilà, notre façon de penser, ces mauvaises pensées qui, à la limite, pourrissent notre